Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Nous recevons donc Louis Rigaudière qui va laisser parler son art à nous.
Exactement, remercie Alexandre pour tous ses compliments avant chaque chronique, ça me touche. Aujourd'hui, on va parler de la France et c'est Raphaël Glucksmann qui en parle le mieux.
Vive la République et surtout vive, allez tous ensemble, vive la France.
Malaise, mais tellement représentatif de ce pays qui se prépare doucement à l'élection présidentielle au rythme des scandales médiatico-politico-judiciaires, comme on a pu le voir lors de l'affaire Liana, et qui ne cesse de subir le mépris de son président. On se souvient de sa provocation lors de l'affaire Benalla. « Qu'il vienne me chercher », criait-il. Eh bien justement, la semaine dernière, nous avons eu droit au silence demandé par ce même président qui ne veut pas entendre trop de cris après la mort de la fillette. Des propos qui ont ulcéré la classe politique, à commencer par David Lisnard.
David Lisnard, vous avez évoqué le meurtre de Liana. Emmanuel Macron a reconnu hier que la question de la confiance dans nos institutions était posée tout en mettant en garde contre
qu'il
toute
arrête de poser des questions.
Attention à la démagogie, dit-il.
Oui, bien sûr. Mais c'est une grande forme de démagogie que de dire dans ce genre d'événement attention à la démagogie. J'ai entendu cette nuit, en regardant l'actualité pour être prêt à vous répondre, qu'il avait sorti une phrase ceux qui crient, mais enfin, il n'a pas de gosse. C'est pour ça. Bien sûr que Emmanuel Macron, parce que quand vous avez des enfants, que vous voyez que quelqu'un qui a été mis en cause une semaine avant pour un neuf mois avant pour un viol avec des éléments, il ne faut pas le condamner à priorisme, monsieur. Il faut respecter le droit de la défense, évidemment. Mais qu'il n'y a pas eu une seule audition, une seule vérification, et que vous perdez votre enfant qui se fait violer et tuer. Enfin, vous avez le droit de crier,
vous
non
pensez que
vous avez le droit d'être un peu en colère.
Vous pensez que le président de la République, parce qu'il n'a pas d'enfant, serait éloigné de cette forme de sensibilisation aux enfants.
Je dis simplement
c'est un élément pour vous.
Que quand vous avez des enfants, que vous voyez qu'un enfant vient d'être violé et tué, vous ne pouvez pas dire condamner ceux qui crient et qui expriment une colère. Voilà, ce n'est pas possible.
Oui, la France. Et ce pays gouverné par un enfant sans enfant, dont l'immaturité n'est plus approuvée, au point de faire sortir de leur gonds des personnalités plutôt mesurées, comme Alain Bauer.
Il ferait mieux de se taire. Taire. De la fermer, en fait, en français courant, pour être brutal. La série invraisemblable de petites phrases inutiles. Parce que la petite phrase qui répond à une agression, la petite phrase qui sort parce qu'on sort de ses gonds. Mais il en a eu un doublé. Ce n'est pas un problème de moyens, ne me parlez pas de moyens. Bah, de quoi parle-t-on donc ? Et il n'y a pas de cri, mais la rage sourde, la colère froide qui existe dans ce pays. Moi, je rencontre des gens tous les jours, je ne suis pas enfermé dans une voiture blindée, je ne sors pas de mon hélicoptère pour rencontrer d'autres gens qui sortent de leur hélicoptère. Je suis dans la rue, je vois des gens dans le train sortant d'ici, en y arrivant. Leur colère est inédite, inédite à ce point. Ce n'est pas une affaire, c'est une vraie crise.
Oui, la France, et ce pays gouverné par un obsédé de la redistribution sociale, quitte à nous ruiner et détruire tout ce qui reste, y compris la justice, comme le dénonce la journaliste Eugénie Bastier.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a un problème de laxisme judiciaire, mais aussi un problème de moyens. On dépense 11 milliards pour la justice. La sécurité sociale en France, c'est 600 milliards. Les retraites, c'est 400 milliards. Vous imaginez les montants ? Nous avons choisi, en fait, l'État-providence au détriment de l'État régalien. Et à un moment, il va falloir faire une bascule. Parce que l'État régalien, la justice, pour moi, c'est une des compétences primordiales de l'État. La justice, la défense, l'intérieur, la protection, la sécurité, ça devrait être au-dessus de l'État social. L'État social, il arrive après, dans un second temps. Mais d'abord, il y a l'État régalien. Et aujourd'hui, ces dernières années, on a fait un choix d'être que dans l'État social et de détricoter l'État régalien. 11 milliards pour la justice, 1000 milliards pour l'État social. Voilà la France.
Un président méprisant, dépensier et aux tendances totalitaires. Il n'y a qu'à voir ce projet de loi sidérant d'Aurore Berger qui veut rendre inéligible, rien que ça, tout élu qui serait condamné pour racisme. L'alerte est lancée et Mathieu Bock-Côté est l'un des premiers à monter au front.
Il s'agit d'un des projets de loi les plus liberticides qui a été présenté depuis plusieurs années par les forces politiques que l'on dit du Bloc central. Un projet de loi particulièrement inquiétant. Quel signal veut-elle envoyer? Elle nous dit « Le racisme est le pire des péchés idéologiques de notre temps. Il ne faut d'aucune manière tolérer ceux qui s'en rendraient coupables. Il faut faciliter l'expulsion de la vie politique en les rendant inéligibles ceux qui seront condamnés pour propos haineux, pour propos racistes. » Mais tout cela nous ramène à une question fondamentale, la plus importante de toutes les questions en ces matières. Qui définit le sens du mot « racisme » Sachant que le racisme aujourd'hui est vu comme le péché idéologique premier, celui qui dépasse tous les autres, celui qui maîtrise la définition du mot racisme a une emprise immense sur la vie publique. Et nous le savons, depuis longtemps, depuis 40 ans, toute critique sérieuse de l'immigration massive a été assimilée au racisme.
Et ce président censeur et méprisant a besoin tous les ans de gonfler son petit ego parmi les plus grands has-been et losers de la planète, comme au G7. Alors je vous rassure, ce ne sont pas mes mots, mais ceux du journaliste Vincent Hervouet.
C'est le sommet des has-been, hein, vous avez remarqué. Les Européens qui sont réunis aujourd'hui à Évian sont tous des losers, pour reprendre un mot américain. Vous avez le Britannique qui a crevé tous les sommets de la popularité, l'Allemand qui est honni dans son pays après un an seulement de règne, le Français qui est en fin de mandat, comme chacun sait, n'épiloguons pas. Même l'Italienne a perdu quelques plumes et le Canadien vient de perdre 8 points dans les sondages.
Des bras cassés, dont on se demande encore comment ils parviennent à se faire élire. Et c'est là que certaines questions se posent. Pourquoi n'avons-nous pas encore les dates de la prochaine présidentielle ? Sur CNews, Pascal Praud et son équipe s'interrogent et avertissent que quelque chose est en train de se préparer.
Le choix des dates de l'élection présidentielle a un impact très direct sur les élections législatives qui pourront être convoquées ensuite par le président ou la présidente élue, parce qu'il y aura forcément une dissolution, on l'imagine. Et de là, la majorité qu'obtiendrait ce président ou cette présidente, ça peut changer.
Il dit à ses interlocuteurs qu'il prépare quelque chose.
Avant la fin de son deuxième ?
Il dit qu'il prépare quelque chose de spectaculaire.
Ah oui.
Donc, je ne sais pas ce que c'est que... Si vous avez des informations...
Pas spectaculaire, en tout cas.
Je dois dire que de l'Élysée, j'en ai de moins en moins. Pour tout vous dire.
Non, mais quand vous parlez...
Je ne suis plus dans
l'écriture sur la ligne.
Je ne suis pas dans la confidence.
Quand vous parlez aux macronistes de la première heure, ce qui me stupéfait, c'est qu'ils disent que...
Joseph
Massescaron. Il peut tout faire.
Ouais. Oui, mais ça veut dire quoi,
il peut tout faire. Y compris l'utilisation de l'article 16, y compris... Il peut tout faire. C'est eux-mêmes qui le disent.
C'est pas gênant.
C'est quand même troublant. Attendez-moi. C'est quand même troublant que les macronistes de la première heure vous disent qu'il peut tout faire.
Non, mais l'article 16, il est dans la Constitution, mais là, il ne peut pas prolonger son mandat.
Non, il faut des conditions.
Il y a des conditions. Mais les conditions, c'est les conditions.
Les conditions, t'en fais ce que tu veux.
C'est la menace de l'intégrité du territoire. Voilà. Ça veut dire une guerre, quoi.
Non, mais vous
qui se profile.
La guerre. Voilà la bonne excuse pour piétiner la démocratie. Et depuis plusieurs années, Philippe de Villiers est l'un des premiers à avoir alerté sur ce scénario presque irréel aujourd'hui, mais qui, au fil des jours, se concrétise dangereusement.
La menace existentielle, c'est la Russie. Et donc, il faut faire la guerre. Et donc, pendant que les Français galèrent sous l'inflation, sous la misère, qui n'ont pas de quoi remplir leur réservoir d'essence, Macron nous dit, on va aller faire la guerre avec un 14 juillet préparatoire qui sera la transformation des Champs-Élysées en champ de bataille. Macron veut la guerre. Il faut que les Français le sachent. Il veut nous emmener à la guerre. Mais ce n'est pas la bonne guerre. La Russie n'est pas une menace existentielle, quoi qu'on pense par ailleurs. La vraie menace existentielle, je le dis ici, à chaque fois dans chaque émission, la menace existentielle, c'est le changement de peuplement et l'islamisation de la France.
Et sur ce changement de population et cette islamisation de la France, on a encore eu droit à une scène d'anthologie la semaine dernière. Un élu RN que nous connaissons bien, Kevin Nader, a démontré par l'absurde les contradictions de la laïcité à la sauce communiste. Face à une élue voilée, Kevin Nader propose donc d'interdire tout signe religieux dans le conseil municipal. Et face au refus du maire, il récite le « Je vous salue Marie » en sortant la croix du Christ. Et là, c'est le drame.
Je suis fier d'être ici, d'être élu avec mon voile. Voilà.
Donc je ne vois pas pourquoi les lois de la laïcité s'appliquent dans cette ville, dans cette assemblée communale et dans les politiques municipales. Et moi, je suis fier de l'assemblée communale, de la diversité qui la compose et de la présence parmi nous de Fenda.
Eh bien, puisque vous refusez d'être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal.
Mais...
Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant.
Et que la
croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse.
Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement.
Ce maire communiste, Philippe Bouissou, a donc choisi son camp. Non au christianisme, oui à l'islam. Non à la croix, oui au voile. Non aux églises, oui aux mosquées et aux centres culturels musulmans massifs.
Chers frères, chères sœurs, chers amis, salam alaikum, que la paix soit avec vous. J'ai le plaisir de vous accueillir sur le chantier du futur centre culturel et culturel musulman d'Ivry-sur-Seine. Vous voyez, la grue derrière moi a été installée il y a quelques jours et va démarrer le gros œuvre à proprement parler, monter les murs, construire le bâtiment. Et je profite de l'occasion aussi de ce début de mois de Ramadan pour vous souhaiter un très bon Ramadan. J'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés monsieur le maire qui est toujours là présent pendant le Ramadan, avant le Ramadan, pour souhaiter aussi un bon Ramadan aux musulmans. Je lui laisse la parole.
Cher Mohamed Akrit, d'abord je te remercie de m'accueillir et je voudrais adresser à toutes les musulmanes et à tous les musulmans d'Ivry et d'ailleurs, parce que je sais que la mosquée d'Ivry est aussi fréquentée par beaucoup de musulmans de Paris, du Val-de-Marne, donc je voudrais vous souhaiter à toutes et tous un très bon Ramadan, je crois qu'on dit Ramadan Moubarak, c'est bien ça. Voilà, j'aurai, je crois, un immense plaisir à vous retrouver plus tard. Je pense qu'on aura un iftar ensemble pendant le Ramadan et aussi de vous saluer au moment de l'Aïd. J'espère que tout va bien se passer. Je vous souhaite un très beau Ramadan.
Et le vidéaste Victor Ferry est allé scruter les anciens postes de ce maire communiste qui proclame lui-même son profond respect pour toutes les religions. Et à en croire certains postes, on a clairement de quoi en douter.
Et moi qui ai un respect profond pour toutes les religions, même si je n'en pratique aucune.
Alors, on va voir l'immense respect qu'il a pour toutes les religions. Donc, regardez, là, vous avez des dignitaires catholiques qui se protègent de la pluie. Et donc, Philippe Bouissou, là, le maire communiste de Ivry, ils ont enfin dit oui aux capotes, mais c'est pas par là que ça s'enfile. Ha, 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 ha. Donc là, il est en train de dire, vous avez une capote sur la tête. Mais jamais, jamais, il n'oserait faire ça. Sur les tenue des musulmans. Donc, j'ai un respect profond pour l'ensemble des religions. Donc, le respect qu'il a du christianisme. Là, voilà, vous avez un mec qui, pour la photo, déconne sur le mur des lamentations. Et donc, lui, il repartage ça en disant MDR. Profond respect qu'il a pour les religions. Une personne qui fait des blagues sur les juifs, qui fait des blagues sur les chrétiens et qui lèche les babouches des musulmans.
Père, Inch'Allah, qu'on pourra signer le permis de construire avant la fin de ce Ramadan.
J'espère, Inch'Allah, qu'on pourra signer le permis de construire de la mosquée avant la fin de ce Ramadan. Donc, catholique, c'est capote sur la tête. Les juifs, c'est MDR, il y a Spider-Man. Et les musulmans, c'est Inch'Allah, Aïd Moubarak. C'est vraiment insupportable.
Philippe Bouissou et Macron ont en commun d'avoir choisi leur camp, celui de l'anti-France, celui du mépris de ce peuple qui lui est étranger. Et ou qui n'eut tout simplement rien, en fait, de la censure des opposants et de la propagande d'État. Qu'à cela ne tienne, nous nous battrons jusqu'au bout et nous vaincrons ce système pourri jusqu'à la moelle. Allez, vive la République et surtout, surtout...
Vive la France !
Et vous savez, en préparant vos sonores, Louis, hier, j'ai eu une espèce d'hallucination auditive en fait en l'écoutant, mais je pense que vous y avez tous pensé sur
façon. Oui. Je pense à une femme, moi, spécifiquement.
Ah bah moi, je pense à un homme, moi, je crois.
Ça me faisait penser à Valérie Pécresse.
Bref, j'ai mis en sonore ce que j'ai eu.
Vive la France !
Parce que c'est notre pays !
Ah oui.
Oui.
Son digne successeur. En
bah voilà.
Louis Rigaudière, c'est très dommage que ces micros soient fixés parce que je vous verrais très bien les lâcher comme ça
à la fin de
chaque chronique.
Ça serait pas mal.
Comme les stand-uppers, comme on dit en français.
Exactement. Comme les humoristes. Ouais. Voilà. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Louis Rigaudière.
Merci.
Et puis
Alexandre.
On vous dit bien sûr à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite. L'analyse.
Et pour cette analyse, eh bien, nous allons parler de l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Premier ministre britannique Keir Starmer vient de proposer justement cette interdiction, suivant ainsi Emmanuel Macron, suivant ainsi d'autres dirigeants. Et de tout cela, on va parler avec Momochi. Bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Courtoisie.
Alors, vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ingénieur en électronique, vous êtes également vidéaste, spécialisé dans l'analyse de l'IA, de la tech, des médias, donc c'est forcément un sujet que vous connaissez bien. Tout d'abord, effectivement, première question, donc, ce que Keir Starmer propose, c'est l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans. Est-ce que c'est une proposition qui a déjà porté ses fruits ailleurs dans le monde ?
Alors, je vais vous dire, techniquement, il n'y a pas vraiment d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ou 16 ans, puisque c'est ce qu'il veut faire, en fait, c'est forcer tout le monde à montrer sa carte d'identité ou passer un scan biométrique. L'Australie a commencé, ils ont passé une loi en novembre 2024, qui était rentrée en application en décembre 2025. Donc, on a eu l'occasion de voir un petit peu comment c'est en train de se passer. Et concrètement, en fait, énormément de jeunes se sont retrouvés bloqués. Leur compte a été supprimé, leur compte Snapchat. Oui. Une liste particulière de réseaux sociaux a été faite. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez contourner assez facilement cette interdiction-là.
Parce que théoriquement, déjà, pour être inscrit sur un réseau social, il faut avoir un certain âge. C'est-à-dire qu'il faut avoir 12 ou 13 ans, il me semble, pour Facebook, pour Snapchat, etc.
Voilà. Oui. Maintenant, avant, ce qu'ils faisaient, c'était simplement, j'avais plus de 12 ans et créer leur compte. Aujourd'hui, ce que l'intention de l'interdiction des réseaux sociaux est noble en soi, parce que les réseaux sociaux sont un vrai problème, et j'en ai souvent parlé dans mes vidéos YouTube. Je suis plus, on va dire, journaliste, citoyen, youtubeuse que vidéaste, mais c'est un vrai problème parce que les écrans capturent notre attention et sont designés par des ingénieurs spécialisés pour capter en fait les sujets qui vous intéressent le plus et vous rendre accro en fait.
Il y a toute une, pour le coup, avant d'aborder peut-être l'ingénierie sociale peut-être qui est mise en place par Descartes Starmer d'Emmanuel Macron, il y en a une autre qui est mise en place évidemment par ces algorithmes. Ça a commencé avec Facebook en 2004 si je ne m'abuse, et puis après avec tous les autres réseaux sociaux. L'objectif, c'est ces plateformes, pour gagner de l'argent, elles ont besoin du plus grand nombre, parce qu'elles se rémunèrent surtout grâce à la publicité, il me semble. Donc, elles ont besoin d'avoir le plus d'utilisateurs possible, qui restent le plus longtemps possible sur le réseau social. Donc, tout est fait pour capter l'attention de ces jeunes, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. C'est que comme ces plateformes sont gratuites, vous créez un compte à votre nom, vous parlez avec vos amis, vous likez, vous commentez. Tout ça, on appelle ça du surplus de comportement. Le fait d'appuyer sur le bouton like, le fait de commenter, ça montre votre intérêt. Mmh. Et chaque plateforme récolte des petites informations sur vous et peut savoir, alors, est-ce que vous aimez le football ? Est-ce que vous aimez les voyages ? Est-ce que vous aimez tel acteur, et vous êtes plus facilement ciblable pour des publicités, et ensuite vos profils sont vendus de manière extrêmement détaillée à des publicitaires. Mais pour que ça fonctionne, vous devez rester le plus longtemps possible sur le site. Et pour ça, il faut vous montrer de plus en plus de posts pour pouvoir récolter de plus en plus d'infos sur vous. Et bon, c'est le système de fonctionnement des réseaux sociaux. Beaucoup de gens le savent, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Mais ce qui est dérangeant, c'est que, en fait, ils ont engagé beaucoup parfois des ingénieurs qui ont en fait travaillé même sur les machines à sous dans les casinos pour pouvoir comprendre les mécanismes d'addiction. Et par exemple, les posts, la manière dont ils vous ont montré, le timing, le fait de vous montrer des posts parfois pas intéressants et parfois très intéressants, crée en fait une sorte de hack de votre cerveau qui vous rend accro aux réseaux sociaux. Et ça, c'est un véritable problème.
Alors, parce que évidemment, ce que propose Keir Starmer a déclaré, c'est que les réseaux sociaux rendent les enfants malheureux. C'est une déclaration qu'il a réalisée quand il a fait sa proposition. Facilite les harcèlements, les abus sont conçus pour être addictifs. Et donc, lui, son objectif, selon ce qu'il prétend en tout cas, c'est de redonner leur enfance aux jeunes et de mieux protéger leur santé mentale. Quelque chose qui est absolument évident et qui est partagé par l'immense majorité de la population et les parents, c'est l'idée que, effectivement, les jeunes passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Alors, selon vous, c'est peut-être la question centrale de cet entretien, mais est-ce que interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, c'est la bonne solution pour faire en sorte que, justement, les enfants passent moins de temps dessus ?
Alors, c'est un vrai problème, mais c'est une mauvaise solution. Vous avez effectivement, les jeunes passent énormément de temps sur leur téléphone. Ils passent, la dernière fois que j'ai vu passer un sondage, on était parfois à 5 heures par jour.
Oui, c'est ça.
Et c'est clair que c'est inquiétant.
En moyenne.
Ouais, en moyenne. Et c'était pour un sondage américain.
Ouais.
Donc, probablement d'il y a quelques années aussi. Et beaucoup de parents sont inquiets. Vous avez Jonathan Haidt qui a écrit un livre qui s'appelle « La génération anxieuse et l'utilisation intensive des réseaux sociaux » qui vous met face à beaucoup d'hypersexualisation, de la polarisation, des images parfois choquantes parce que le contenu négatif attire plus l'attention, crée en fait énormément d'inquiétudes et beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Ça, c'est un vrai problème. Maintenant, si aujourd'hui, un parent s'est totalement déresponsabilisé et a offert un téléphone à son enfant parce qu'il ne savait pas les problèmes que ça allait causer. Ouais. C'est tout à fait compréhensible. Je pense qu'il y a d'autres solutions que l'interdiction pure et simple. Vous pouvez leur donner des outils. Et les premiers outils qui existent, c'est par exemple le contrôle parental.
Ouais.
Donc, quand vous offrez un téléphone à votre enfant, il y a des moyens pour ça.
Ouais, mais alors, pardon, mais... Pour tout vous dire, moi-même, quand j'étais jeune, on m'a mis un contrôle parental et j'ai réussi à le détourner. Et on peut imaginer aujourd'hui que, étant donné qu'on peut avoir à peu près toutes les informations disponibles grâce à l'intelligence artificielle en demandant à ChatGPT ou qui sais-je comment on fait, on peut contourner ces contrôles parentaux.
Absolument. C'est pour ça que mon message, c'est que vous échapperez pas à l'éducation.
Ouais.
Si vous voulez en fait vraiment protéger vos enfants, si vous leur donnez l'accès à Internet, Internet, c'est pas un jouet.
Mmh.
Si vous leur donnez un accès à Internet, il faut leur expliquer qu'il y a des mauvaises personnes ou qu'il y a en fait des personnes qui peuvent vouloir du mal. Et enfin, c'est la première chose, c'est l'éducation.
Mmh.
La deuxième chose ensuite, c'est que si vous voulez en fait leur donner cet accès, il faut qu'ils comprennent la responsabilité qui est derrière. Et effectivement, si vous leur donnez un contrôle parental sans leur expliquer pourquoi, ça peut moins bien fonctionner.
Mmh.
Mais la solution proposée aujourd'hui par l'État, c'est quoi ? C'est de simplement interdire les réseaux sociaux, de couper l'accès à tous leurs amis et leurs familles avec lesquels ils échangeaient avant. Mmh. Et vous savez ce qui se passe ? Si un parent n'est pas intéressé, eh ben, il peut très bien activer la reconnaissance faciale sur son propre visage et donner accès à ses enfants. Donc si vous avez des parents non responsables, c'est extrêmement facile à contourner en fait.
Ouais, d'accord. Et d'une certaine manière, il y a aussi la question des VPN.
Mmh.
Qui, pour le coup, est un petit peu un des écueils à la loi d'Emmanuel Macron déjà en France, mais qui pourrait aussi en être un au Royaume-Uni, dans le sens où ça voudrait dire, le VPN, donc pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un moyen de se connecter grâce à, si je dis pas, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais grâce à une adresse IP donc, qui vient d'un autre pays. Donc, finalement, c'est comme si vous expliquiez à votre téléphone expliquait à une application que finalement vous n'êtes pas localisé en France, mais par exemple, j'en sais rien, en Hongrie ou alors au Brésil, peu importe. Et à partir de ce moment-là, votre téléphone se configure, enfin échappe un petit peu aux lois du pays dans lequel vous êtes actuellement. Ce qui signifie, pour faire simple, que aujourd'hui, avec un VPN, qui ne sont pas toujours payants d'ailleurs, vous pouvez tout à fait échapper aussi à cette interdiction.
Oui, exactement. Et vous savez, en fait, le fond finalement du problème, c'est que cette mesure-là est impopulaire, mais elle répond à un vrai besoin des parents. Et pour si vous voulez défendre les enfants, encore une fois, c'est poser une solution technique, vous donne l'illusion que vous allez régler tous les problèmes.
À la place des parents ?
C'est
déjà
ça. Alors que c'est un problème social, c'est un problème humain.
Ouais.
Si vous voulez, par exemple, empêcher que les enfants se fassent écraser dans la rue, vous pouvez soit leur mettre une application de géolocalisation qui regarde où ils sont à chaque minute et leur mettre une alerte pour dire « attention, vous êtes près d'une route, vous ne pouvez pas traverser », ou alors vous pouvez éduquer les parents, leur expliquer le problème pour qu'ils disent à leurs enfants « attention, ne traverse pas la rue ». C'est voilà comment est-ce qu'on veut régler des problèmes sociaux, en fait. C'est pas en mettant une couche d'interdiction technologique qui va régler un problème de fond. Et les VPN, le souci, c'est que c'est pas juste un gadget pour des gens anonymes pour pouvoir contourner Internet. Un VPN, c'est un véritable outil de protection. Ça vous protège du malware, ça vous protège de sites qui sont malveillants. Ça permet à des entreprises de pouvoir communiquer de manière cryptée pour protéger leur confidentialité. Donc, si vous voulez en fait interdire les VPN, vous allez avoir un gros problème avec toute entreprise en France qui veut pouvoir travailler de manière confidentielle, ou alors des journalistes comme vous qui veulent pouvoir communiquer de manière confidentielle aussi. Ouais.
Et donc finalement, la solution à ce problème d'éducation qui est posé, c'est, comme vous le décrivez, quelque chose qui impliquerait en fait toute la société. Mais je vais vous donner un contre-exemple là-dessus, Moji, c'est l'interdiction des sites pornographiques. Mmh. Où cette fois-ci, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'une interdiction est tombée sur les moins de 18 ans il y a un an maintenant au niveau des sites pornographiques en France. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, à moins justement d'utiliser un VPN ou alors de faire vérifier son identité, je pense, sur le site en question, il est impossible d'y accéder, et sans doute que ça a dû réduire le trafic en France, parce que ça met une barrière quand même.
Ça, alors, l'interdiction, votre question, c'est est-ce que c'est une bonne chose
d'avoir... Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les sites pornographiques, on voit quand même du positif, dans le sens où c'est quand même beaucoup plus difficile d'y accéder aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui est évidemment nocif. En l'occurrence, ça a fonctionné au moins partiellement.
Alors, l'interdiction a peut-être fonctionné donc en France, et plusieurs pays aux États-Unis l'ont fait. Mmh. Mais précisément, vous savez ce qui se passe alors ? Au lieu d'aller sur des sites officiels de contenu adulte, les enfants, en fait, ou les jeunes, s'ils se retrouvent bloqués, ils vont alors essayer de trouver d'autres moyens. Ouais. Et vous allez pousser progressivement les jeunes vers des sites de plus en plus obscurs, voire vers le dark web, où là, ils ont beaucoup plus de risques d'être confrontés à des vrais prédateurs ou des contenus de plus en plus extrêmes. Maintenant, il y a une demande, c'est quelque chose, un contenu adulte. Derrière, je suis d'accord que c'est quelque chose de nocif et les jeunes ne devraient pas être exposés à ça. Mais encore une fois, c'est quelle est l'utilisation responsable d'Internet que vous voulez faire. Ouais. Et vous avez des applications de contrôle parental qui permettent de bloquer dès qu'il y a du contenu qui est détecté comme du contenu X ou porno aussi.
Et même, comme vous le disiez, dans tous les cas, le problème à la source, c'est un problème d'éducation là-dessus. Une autre question qui se pose, plutôt pour les réseaux sociaux, c'est la question de la fin de l'anonymat. Mmh. Ou alors là, c'est quelque chose qui est, pour le coup, particulièrement déterminant, parce que, évidemment, aujourd'hui, pour pouvoir échapper un petit peu à l'intégralité des... Pour garder déjà une vraie, un vrai anonymat, et pour garder, quelque part, pour échapper un petit peu aux lois parfois très contraignantes sur la liberté d'expression de certains pays, l'Angleterre étant évidemment en tête d'entre eux, l'anonymat, c'est le seul moyen de s'en sortir. Concrètement, déjà, est-ce que l'anonymat existe aujourd'hui, réellement, sur les réseaux sociaux ? Est-ce que le gouvernement, s'il veut avoir accès à un compte, peut justement y accéder ? Et deuxième question, est-ce que cette obligation de vérification sur les réseaux sociaux mettrait vraiment fin à l'anonymat ?
Alors, l'anonymat, c'est quelque chose de relatif, on va dire. Si vous voulez être véritablement anonyme, il faut utiliser des outils un peu plus détaillés, un peu plus précis que juste des VPN. Mmh. Mais vous avez une sorte de... On peut rappeler un pseudonymat. D'ailleurs, mon pseudo, c'est Momochi, que j'utilise en ligne. Et en fait, l'anonymat, c'est pas simplement une sorte de gadget ou de choses amusantes qu'on utilise. C'est parfois une nécessité pour des lanceurs d'alerte, oui, pour des journalistes dans beaucoup de pays, et simplement pour une liberté d'expression de base. Je rappelle les fondements d'Internet qui avaient été créés initialement. Quand on nous a offert Internet, on pouvait se connecter sans devoir créer de login. On pouvait, du moment qu'on avait une ligne téléphonique, pouvoir aller sur n'importe quel forum. Et d'ailleurs, on nous disait à l'époque, ne donnez jamais votre nom sur Internet. Mmh. Ne donnez jamais vos informations personnelles. Parce que là, vous êtes en risque d'une usurpation d'identité ou d'avoir des problèmes ou du harcèlement. Mmh. Et là, on est en train de passer dans un paradigme complètement à l'opposé qui dit maintenant, vous devez donner votre identité, vous devez livrer vos cartes d'identité. Je vous parle même pas du risque de sécurité quand on voit que l'application officielle de communication TCHAP du gouvernement s'est fait hacker et qu'on peut exposer des données personnelles. Là, on est en train de demander à vos enfants de mettre leur carte d'identité en ligne. Vous êtes en train de constituer une base de données dont des hackers ou dont des pédophiles pourraient rêver d'avoir. Si vous avez une liste de comptes ou de gens dont ils ont la certitude que ce sont des enfants qu'ils ont moins de 15 ans,
S'ils ont moins de 15 ans, non, parce qu'ils ne pourront pas se présenter sur les réseaux sociaux. Mais en revanche,
ils essaieront de passer le test. Oui. Et s'ils essaient de passer le test ou avec leur visage ou qu'ils sont innocents et qu'ils passent leur carte d'identité, dans ce cas, voilà, vous allez collecter énormément d'informations sur eux. Et puis, à partir du moment où ils ont 15 ou 16 ans, ils sont toujours mineurs aussi techniquement. Donc, c'est un risque énorme parce que les plateformes vous disent que les données ne vont pas être sauvées. Mais si vous regardez les conditions générales, par exemple, de Persona, qui est une des entreprises qui fait cette vérification d'âge, ils sont tenus de garder les informations pendant 2 ou 3 ans.
Mais alors, ça signifie que déjà qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème avec les données qui sont présentes sur les réseaux sociaux,
oui.
Détenues par les plateformes des réseaux sociaux, ça rajouterait quelque part un problème de vulnérabilité qui se jouerait au niveau étatique.
Je dirais au niveau étatique, mais au niveau privé aussi, parce qu'aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas choisi d'avoir une solution unique. Ils sont en train de demander aux plateformes, mettez la vérification d'âge.
Ah oui.
Du coup, X utilise Persona. Persona s'est fait hacker l'année passée. Vous avez Yoti qui a aussi fait la vérification d'âge. Vous avez plusieurs comptes qui existent et plusieurs, ce sont les plus grands qui existent. Ils ne sont pas à l'abri, ce sont des sociétés privées. Ils ne sont pas à l'abri de vendre vos données personnelles. Ils ne sont pas à l'abri de se faire hacker aussi. Vous avez en fait un problème. Les réseaux sociaux étaient créés par des sociétés privées. Les gouvernements n'avaient pas la main dessus.
Oui.
Ça a créé un énorme problème. Voilà, de polarisation, d'attention chez les jeunes. Et les gouvernements disent, ben, vous savez quoi? Nous allons vous obliger à mettre votre identité, mais on va faire confiance à une autre société qui va s'occuper de vos données. Mais là, ça va mieux se passer. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voyez la contradiction?
Oui, bien sûr. Mais alors, bon, il nous reste une dizaine de minutes. Momochi, on va faire un petit peu... On a sans doute beaucoup de parents qui nous écoutent en allant au travail ce matin ou de manière générale. Comment on fait justement pour empêcher ces enfants, et même au niveau de la société tout entière, comment est-ce qu'on fait pour réduire le temps d'écran déjà en général, et ensuite le temps passé sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, on est à 5 heures, effectivement c'est un chiffre que j'avais également trouvé, donc sur les moins de 16 ans, de manière, donc 5 heures en moyenne. D'un autre côté, on observe aussi que bien sûr, il y a certains réseaux sociaux qui sont beaucoup plus addictifs que d'autres, et qui entraînent des comportements plus compliqués, notamment évidemment TikTok ou Instagram, avec les réels et les vidéos très courtes qui captent l'attention pendant très peu de temps. Comment on fait pour résoudre ce problème?
Encore une fois, c'est, je pense, l'éducation. Je sais que c'est difficile et je sais que c'est pas facile à entendre, mais vous donnez, en fait, quand vous donnez votre téléphone à votre enfant, c'est pas anodin, c'est pas comme si vous lui donnez un jouet, c'est pas comme si vous lui donnez une balle. Vous lui donnez, en fait, accès à un monde entier, ça peut être un groupe social, ça peut être un jeu, il peut, c'est, en fait, s'amuser, passer du temps sur les jeux vidéo, vous lui donnez accès à quelque chose d'assez énorme, et eux-mêmes peuvent être aspirés là-dedans. Je rappelle qu'au Sénat, aux États-Unis, il y a eu plusieurs parents qui ont fait des attaques contre Facebook parce qu'il y a des véritables cas de suicide et d'addiction sur les enfants. Donc, c'est vraiment pas anodin. Maintenant, encore une fois, je pense que les parents ont besoin d'être accompagnés. Et comme il y a beaucoup d'attention justement sur ça, les plateformes et les réseaux sociaux commencent à comprendre et commencent à développer un petit peu plus d'outils de protection. Par exemple, WhatsApp permet d'avoir une version pour enfants qui fait que vous pouvez communiquer uniquement avec vos parents ou avec des numéros qui ont été pré-approuvés par les parents. Vous pouvez avoir YouTube Kids, par exemple, qui suit les régulations COPPA. Donc, vous pouvez, en fait, créer des comptes pour vos enfants. Vous pouvez, en fait, créer avec votre iPhone et avoir un contrôle pour qu'il ne puisse pas installer d'application par lui-même. Mais encore une fois, il faut lui expliquer pourquoi est-ce que vous le faites. Et vous devez lui faire comprendre ça. C'est un petit peu comme vous donner une voiture à un enfant. Ça veut dire que vous devez lui expliquer, il doit comprendre. Il doit comprendre, en fait, les implications. Maintenant, il y a aussi, il y a aussi des outils parfois qui visent des enfants très, très jeunes. Et la question, c'est est-ce que vous devriez leur offrir ça? J'ai vu des iPads pour bébés aux États-Unis.
Oui, bien sûr.
Et vous avez, par exemple, des chaînes qui sont dirigées pour les enfants. Par exemple, quelque chose qui s'appelle Cocomelon, qui rend les enfants un petit peu fous et extrêmement agressifs, parce que ce sont des images avec beaucoup de lumière, beaucoup de sons, qui stimulent, en fait, leur attention. Et ils deviennent très agressifs dès qu'on leur enlève. Donc, je pense que si vous voulez aider les enfants, on ne va pas échapper à leur expliquer, ok, on peut donner un peu d'écran, mais on va limiter le nombre d'heures. On peut donner un certain temps d'écran. Et après, on va passer plus du temps, revenir sur la lecture, parce que vous avez besoin de développer des facultés cognitives différentes, les faire aller jouer dehors. C'est
En fait, il y a aussi une sorte de... Parce que la mesure de Keir Starmer, mine de rien, elle est quand même approuvée selon un sondage par plus de 80% des Britanniques. Mm-hmm. Il y a quand même peut-être une incompréhension de la part, on en parlait un petit peu avant cet entretien, mais d'une génération qui ne connaît pas forcément tous les aspects nocifs des réseaux sociaux. On pense à la génération qui a 40-50 ans aujourd'hui. Et puis, en parallèle, le deuxième souci, c'est effectivement une sorte de démission presque de ses parents, parce que la raison pour laquelle on met un écran entre les mains d'un enfant, c'est parce qu'on sait que ça va l'occuper.
Bien sûr, parce que nous pensions tous que les réseaux sociaux étaient inoffensifs. Nous pensions tous qu'Internet était inoffensif. Quand on a eu Internet, en fait, on s'est pas rendu compte des conséquences que ça allait voir sur notre esprit, sur les conséquences sur notre attention. Nous-mêmes adultes, maintenant, quand vous sortez, allez dans un restaurant ou dans le métro, tout le monde est vissé sur son téléphone et on s'est pas rendu compte de l'effet de la technologie sur nous. Ce n'est que maintenant qu'on commence à se rendre compte de ces problèmes de polarisation, d'angoisse, d'hypersexualisation et d'addiction. Et je pense qu'on essaie de mettre des réponses trop rapides qui ne fonctionne pas. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'il propose Keir Starmer en Royaume-Uni, c'est d'interdire, il y a une liste d'une dizaine de réseaux sociaux.
Ouais, alors Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat X, YouTube classique, effectivement.
Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ce qui s'est passé en Australie. L'Australie a fait une liste de réseaux sociaux interdits. Et bien, TikTok a créé Lemonade. Ils ont créé de nouveaux réseaux sociaux qui ne sont pas sur la liste.
D'accord.
Donc, les enfants vont juste sur le réseau social suivant.
En fait, le marché s'adapte et puis...
Donc, les enfants vont aller sur le suivant, puis sur le suivant. Et de toute manière, vous allez avoir une sorte de course sans fin, un jeu de tape-taupe. Vous allez avoir nouveau réseau social et ça va vous prendre un an d'avoir une législation pour l'interdire. Et les enfants, de toute façon, pourront communiquer entre-temps. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'ils n'ont pas interdit WhatsApp. Et si vous voulez, par exemple, du harcèlement de classe des enfants, parfois, ils discutent sur les groupes WhatsApp. Et il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez avoir du harcèlement,
et puis,
malheureusement.
Aujourd'hui, on a un point aussi, petit détail, mais où tous les réseaux sociaux tendent presque à l'uniformisation d'une certaine façon, dans le sens où, par exemple, WhatsApp, par exemple, maintenant, il y a des stories, donc des images éphémères. À côté de ça, même, on peut publier des photos sur n'importe quel... réseau social maintenant. Et donc finalement, effectivement, je dis pas que tous se valent, mais enfin, il y a un point, effectivement, et peut-être qu'il nous reste 3 minutes, peut-être qu'on conclura là-dessus, Momochi, mais j'ai retrouvé une statistique que je trouve assez inquiétante, c'est que les jeunes passant plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux ont un risque doublé de symptômes de dépression et d'anxiété. Or, les adolescents passent en moyenne 3h30 par jour sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que la moyenne est supérieure à justement ce risque doublé de dépression et d'anxiété. Est-ce que une des solutions, ça peut pas être de faire de la gestion des écrans en général, disons, un enjeu de santé publique?
Je pense, oui, que ce serait peut-être un meilleur angle de responsabiliser, de faire comprendre le problème, de faire de l'éducation, de la prévention, pour pouvoir aider, en fait, ces jeunes, parce qu'ils ont besoin de ça. En parallèle de ça, moi, ce qui me rend très inquiète, c'est que la définition du réseau social est en train de dévier, justement. WhatsApp devient un réseau social. Vous avez déjà Roblox et Discord qui sont en train de faire la vérification d'âge de manière globale, sans qu'aucun pays les y oblige. Et on pourrait demain avoir YouTube déclarer que les discussions et les commentaires de YouTube peuvent aussi avoir des prédateurs ou des conversations dangereuses. Donc vous pourriez interdire et mettre la vérification d'âge sur YouTube aussi. Ou par exemple sur Amazon, pour empêcher les enfants d'acheter des objets destinés à des adultes, on pourrait avoir en fait un contrôle d'identité généralisé sur toutes les grandes plateformes sur Internet. Et ça, c'est ce qui me rend le plus inquiète.
Mais alors pourquoi ?
Pourquoi, encore une fois...
Pourquoi ça vous inquiéterait de donner votre identité ? Quel est le problème, en fait, dans le fond ?
Parce que si votre vie est simple, si vous n'avez aucun problème, peut-être que vous dites que tout se passe bien. Mais parfois, vous pouvez avoir des gens qui ont été confrontés à du harcèlement ou des personnes qui sont publiques ou des personnes qui, par exemple, critiquent les mesures du gouvernement. Et vous êtes, en fait, anonyme, vous pouvez avoir plus de confort pour avoir cette critique-là ou simplement vous avez plus de courage pour pouvoir vous exprimer en ligne. Mais vous pouvez aussi avoir des gens qui ont un besoin réel de devoir rester anonyme, par exemple pour ne pas perdre leur travail.
Ouais.
C'est très simplement à dire. Vous devez pouvoir défendre aussi l'anonymat des sources des journalistes. Mmh. Et simplement, pour moi, c'est le principe même d'Internet qui était la liberté d'expression qui est au centre d'Internet. Si vous transformez Internet en un système où vous demandez la permission pour parler, vous n'êtes plus, en fait, dans l'Internet que vous et moi, nous avons connu. Vous êtes en train de transformer le net en LinkedIn, où tout le monde ne dit plus vraiment ce qu'il pense. Ils disent que son travail est génial, que tout se passe bien et qu'il adore ses collègues, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça.
Oui.
Voilà, donc cet espace énorme de liberté et la
même si j'aime bien mes collègues. Hein, mais je...
oui. Et là, nous sommes en France, aujourd'hui, en démocratie, mais imaginez si on a un parti au pouvoir qui serait extrême utilise en fait ces informations où les gens ne seraient plus anonymes, ils pourraient aller inquiéter les gens chez eux, leur mettre des enquêtes, les arrêter.
Et imaginez une France où on se ferait arrêter pour avoir exprimé des opinions sur les réseaux sociaux, ce serait terrible quand même.
Ça peut pas arriver.
C'est
ça,
déjà le cas en Angleterre.
C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en France, effectivement.
C'est ça.
On voit bien les dérives, effectivement. Merci beaucoup, Momochi, pour justement nous avoir apporté un petit peu de ces réflexions et aussi ces solutions, parce que c'est important toujours, même quand on critique une décision gouvernementale, d'expliquer aussi qu'on n'est pas simplement dans la critique pure, mais aussi qu'on peut apporter une autre solution au problème, qui est de meilleures solutions qui existent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, même physiquement, ici, ce matin.
Merci pour l'invitation, et voilà, et j'en parle aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai une émission sur la capture, comment Internet fracture votre attention. Je pense que ça peut parler à beaucoup de parents aussi.
Très bien. Et bien alors, la chaîne Momochi, donc, on vous invite tous à la suivre, chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici ce matin. Et on vous dit à bientôt, on l'espère, ici sur Ligne Droite.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine. Des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour suivre la ligne droite, nous recevons comme chaque semaine Eric Doutrebente. Eric Doutrebente, bonjour, vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet brûlant d'actualité. Il y a quelques jours, SpaceX s'est introduit en fanfare à la bourse de New York. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette aventure ?
Alors, l'introduction en bourse de SpaceX constitue probablement l'événement financier le plus important depuis le début de l'année 2026. L'opération valorise l'entreprise à plus de 1800 milliards de dollars, soit davantage que la plupart des groupes industriels mondiaux et un niveau comparable aux plus grandes entreprises technologiques américaines. Pour comprendre cette valorisation, il faut analyser les trois activités du groupe. La première activité, spatiale historique, avec des noms comme Falcon 9, Falcon Heavy, Dragon ou Starship, SpaceX réalise aujourd'hui plus de 80% des lancements orbitaux commerciaux dans le monde et bénéficie d'une position quasi monopolistique sur certains segments gouvernementaux américains. La deuxième activité, c'est Starlink. C'est aujourd'hui le véritable moteur économique du groupe. La constellation compte près de 10 000 satellites en orbite et plusieurs millions d'abonnés. En 2025, Starlink représente près de 60% du chiffre d'affaires consolidé du groupe et génère plus de 7 milliards de dollars de résultats d'exploitation. La croissance annuelle a dépassé encore 45%. La troisième activité, c'est l'intelligence artificielle. Elle reste marginale pour l'instant dans les chiffres d'affaires, mais absorbe une part importante des investissements du groupe. L'un des éléments les plus importants pour comprendre SpaceX est que les investisseurs n'achètent pas une entreprise spatiale traditionnelle, ils achètent un opérateur mondial d'infrastructure. Le marché mondial du lancement spatial représente quelques dizaines de milliards de dollars par an. Le marché mondial des télécommunications, de l'accès Internet et de la connectivité satellitaire représente plusieurs centaines de milliards de dollars. La logique économique de SpaceX repose sur l'utilisation des fusées pour déployer Starlink, puis l'utilisation des flux de trésorerie de Starlink pour financer des nouveaux projets futurs spatiaux. Les performances financières illustrent cette transformation. faut pas oublier que la société a été créée en 2003. Il y a eu beaucoup d'appels de fonds, mais entre 2023 et 2025, le chiffre d'affaires est passé d'environ 11 milliards à plus de 20 milliards de dollars. Et le résultat d'exploitation a progressé en passant de 3,8 milliards de dollars à près de 6,6 milliards aujourd'hui. Dans le même temps, l'activité spatiale historique représente moins d'un quart des revenus du groupe. La valorisation reste évidemment exigeante à près de 1,8 milliards de dollars. SpaceX se négocie avec plus de 80 fois le chiffre d'affaires attendu et plusieurs centaines de fois son résultat net. Mais le marché valorise donc essentiellement des profits futurs et donc non pas encore réalisé.
Alors justement, comment a évolué le cours en bourse de SpaceX depuis son introduction ?
Alors l'introduction en bourse a été vraiment, comme vous l'indiquiez, en fanfare, parce que depuis l'élection de Trump, l'accélération de la valorisation de groupes a été très forte. On est passé de 27 millions d'euros de valorisation au début en 2003 à 350 milliards au début 2025-26. Et donc là, l'introduction en bourse est faite avec une valorisation la plus forte, puisqu'on a une valorisation totale de plus de 1800 milliards. Et l'introduction en bourse a été vraiment très importante, puisque toutes les banques d'affaires se sont mises dans la danse. Et on a vu que le premier jour de bourse, le cours de SpaceX a augmenté de 19%, alors qu'historiquement, on avait eu des valorisations, par exemple sur Alibaba, en 2014, le cours de bourse a augmenté 38% après le premier jour de bourse, Visa en mars 2008 de 57%, mais c'est vraiment un succès en termes d'introduction. Et depuis l'introduction, donc premier jour à quasiment 20% de hausse, et aujourd'hui, depuis le début de l'introduction, on est à 50% de hausse. Alors il y a évidemment des effets liés aux indices, liés aux effets que tout le monde va avoir du SpaceX dans son portefeuille, puisque aujourd'hui, la gestion indicielle, la gestion passive, est malheureusement assez présente dans les actifs internationaux. Et donc, c'est une aventure qui est un peu incroyable. Elon Musk, qui est au salon Vivatech de l'IA en France, est encore présent. Et je crois que c'est encore un grand succès d'Elon Musk, cette introduction en bourse. Après, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait quelques variations, mais c'est vraiment très bien parti pour avoir un leader. C'est la cinquième capitalisation maintenant aux États-Unis, devant Amazon, et ça leur permettra de faire un rachat dans quelques semaines sur une autre société d'IA qui pèse déjà 60 milliards. Donc vous voyez, c'est une aventure. Elon Musk est quand même un type extraordinaire.
Merci beaucoup Eric Doutrebente, et puis on vous dit à la semaine prochaine, bien sûr, pour votre chronique.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles.
Bonjour Franck, bonjour chers auditeurs.
Alors, on va commencer. Le Figaro donne la parole au député européen et vice-président des Républicains, François-Xavier Bellamy, qui soutient l'initiative de créer des centres de rétention pour migrants hors d'Europe.
Oui, vous en avez beaucoup parlé ce matin dans la première partie. Alors, dans cet entretien mené par Emmanuel Galliero, François-Xavier Bellamy déclare « Après des décennies d'échecs et 8 ans de blocage dans la révision de la direction précédente, nous mettons fin à l'impuissance de l'Europe face à l'immigration illégale. Dès son adoption, nos États pourront, par exemple, créer des centres de retour hors d'Europe. C'est la fin du chantage exercé par les pays qui refusent de reprendre leurs propres ressortissants, l'un des obstacles majeurs pour les retours. Alors, comme le souligne en effet Bellamy, demain, les ressortissants pourraient être conduits vers un centre et cela incitera beaucoup de personnes concernées à repartir sans délai vers leur pays d'origine. Ainsi, une dizaine d'États européens préparent déjà l'ouverture de ces centres de retour. Ce texte a été soutenu par 26 pays européens sur 27. La plupart vont donc se saisir de cette possibilité. Et comme le dit encore le député européen, l'idée est d'avoir rapidement plusieurs centres par continent. Quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, il avait commencé à chercher un partenaire en Afrique pour expulser les immigrés illégaux arrivés à Mayotte depuis la région des Grands Lacs. Et nous pouvons donc compter sur beaucoup de pays prêts à coopérer en retour de facilités commerciales ou d'aide au développement que l'Europe peut accorder. Alors, la grande nouvelle, hein, comme le souligne Bellamy, la durée maximale de rétention passe de 70 jours en France aujourd'hui à 2 ans et devient illimitée pour les personnes qui présentent un risque pour la sécurité. Les retours ne seront plus suspensifs, ce qui désengorgera nos tribunaux d'une masse de procédures purement dilatoires, et le délit de séjour irrégulier est rétabli pour rendre aux forces de l'ordre les moyens d'enquête, notamment pour remonter les filières de passeurs. Des étrangers qui ont commis un crime ou un délit se verront interdire d'entrer, même légalement, en Europe. Voilà, c'est à lire dans le Figaro.
Et Jordan Bardella fait parler de lui, très actif en Europe.
Oui, alors interview à la presse allemande, entretien avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, déplacement en Belgique, en Italie, au Portugal. Le président du RN multiplie les initiatives. Jeudi et vendredi, il poursuivra cette séquence en Pologne, comme vous, un pays que vous connaissez, mon cher Alexandre.
Non.
Non ? Bon, comme le note l'Opinion, du siège de l'agence Frontex à la frontière biélorusse, le potentiel candidat échangera aussi avec des figures du droit et justice, vous savez, ce mouvement qui pourrait revenir au pouvoir en 2027. Le message, le RN pourrait fédérer autour de lui. Alors, comme l'écrit Nina Jakowski, le modèle de Jordan Bardella s'appelle Giorgia Meloni. L'élu rêve de faire de la dirigeante italienne comme le chancelier allemand des alliés au Conseil européen. Mais les deux gouvernements, on le sait, se méfient du RN. Eux, les atlantistes, pro-Ukraine, pro-Mercosur. Alors, d'où l'opération séduction de ce début d'année. Alors, autre sujet épineux que relève l'Opinion, la Russie. Jordan Bardella rêve de décoller l'étiquette pro-Kremlin attachée à son parti. Mmh. Il réaffirme sans cesse son soutien à l'Ukraine, dépeint la Russie en, je cite, « menace multidimensionnelle ». Et rappelle les engagements français auprès de ses alliés. Mais sans faire oublier que le RN s'est opposé à une aide européenne de 90 milliards d'euros à Kiev ou au principe de son adhésion à l'UE. Alors Jordan Bardella a rappelé sa priorité au site Politico, réduire de moitié la contribution nette de la France au budget communautaire. Jordan Bardella a rendu visite le 11 juin au Vlaams Belge qui prône la remigration. Nous n'utilisons pas ce terme parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il revêt en réalité. Évacuait-il alors un concept injuste et anti-républicain dénoncé de son côté Marine Le Pen, mais c'était en 2022. Voilà, c'est à lire dans le quotidien L'Opinion.
Et puis ce soir, Donald Trump est attendu à Versailles lors d'un dîner qui commémore les 250 ans de l'indépendance américaine.
Alors, je ne sais pas si vous êtes invité ce soir, il paraît que ça ne sera pas un dîner aussi fastueux que les précédents, mais l'on sait combien le président américain aime le décorum de la Galerie des Glaces, vous pourriez passer les plats. Mais comme l'indique le site Boulevard Voltaire par l'entremise d'Éric de Mascureau, que je vous invite à lire, l'année 2026 célèbre en effet la déclaration d'indépendance des États-Unis adoptée le 4 juillet 1776, ou à Philadelphie, bien sûr, mais cette dernière ne fut pleinement reconnue sur la scène internationale qu'à l'issue d'un long conflit et d'un complexe processus diplomatique qui aboutit 7 ans plus tard au traité de 1783. Alors, l'ironie de l'histoire veut alors que le président américain se rende à Versailles, où furent signés donc les accords mettant fin au conflit entre puissances européennes liées à la guerre d'indépendance américaine, contrairement à ce qu'affirme le président de la République, qui présente la cité du Roi Soleil comme un haut lieu de l'amitié franco-américaine, consacrant l'indépendance des États-Unis, alors que celle-ci fut en réalité reconnue par l'un des anciens maîtres du Nouveau Monde, l'Angleterre, à Paris, cette fois, où le traité fut signé en 1783 à l'hôtel d'York, situé dans le 6e arrondissement. Car cet accord étant en effet ratifié par la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, dans des clauses qui ne concernent pas les jeunes États-Unis. Donald Trump se rend à Versailles donc pour célébrer cette indépendance, alors même que, justement, il y a cette superposition historique, presque une inversion des lieux de mémoire. Mmh. Cette ambiguïté semble d'autant plus marquée par l'erreur manifeste de la présidente de la République, présentant Versailles comme un haut lieu de l'amitié franco-américaine, mais c'est une affirmation. Le traité consacrant l'indépendance, donc en 83, je répète, une affirmation qui ne correspond aucunement à la vérité, dit le journaliste de Boulevard Voltaire, et qui donne une image d'amateurisme de la part de l'Élysée. L'épreuve du baccalauréat d'histoire-géographie avait lieu ce 16 juin. Certains, manifestement, auraient gagné à réviser pour le repasser.
Et puis Chine, c'est fini.
Oui, alors vous dites Chine, moi je dis Shane. Oui, les dirigeants du BHV Marais jettent l'éponge. Vous ne pourrez plus acheter vos chemises en lin, mon cher Alexandre, dans ce haut lieu de la haute...
Ou vos polos voilà. De contrefaçon Lacoste.
Vous portez du prêt-à-porter, c'est ça
tout. Oh là 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 là, mais c'est petit. On se croirait, je ne sais plus dans quelle radio libre des années 80. Donc, comme le relate Le Figaro, Le Parisien et même Libération qui en fait sa une, 7 mois après son arrivée, le partenariat entre la marque chinoise et le grand magasin parisien, Xang, se termine et Shen au BHV était une erreur, a affirmé, ou plutôt s'est révélé dire Karl-Stéphane Cotendin, le directeur général qui espère, comme l'écrit Le Parisien, que la marque partira dans les mois à venir, parce qu'elle n'est pas partie encore. Idéalement avant la fin de l'année. Vous savez, s'il y a des contrats, et ça coûte cher la rupture de contrat. Alors ainsi, Frédéric Merlin, vous savez, le président de la société des grands magasins SGM, a fini par céder à perte le fonds de commerce qu'il avait acquis en 2023 à l'équipe qui en avait pris la direction. Donc reste aujourd'hui 7 magasins, c'est les ex-galeries Lafayette dans le giron de la SGM, tous en province, comme à Limoges, Angers ou Dijon. Voilà, nos auditeurs dans ces villes comprendront ce que je viens de dire. Et je vous dis, à demain peut-être, mon cher Alexandre.
Oui, à demain.
Alors,
mais restez une minute.
Ouais.
Zone libre.
Je voudrais rebondir, moi, si vous permettez, sur Trump. Parce
allez-y,
que,
rebondissez.
Quand il a été invité, vous savez ce qui l'a convaincu de venir à Versailles. Il a déclaré, Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd.
Ah bah ça, voilà. C'est une phrase de nouveau riche, mais c'est exact, bien, ça correspond tout à fait à ça. Ouais. Mais vous savez, il est un peu comme Ludo de Bavière, ils sont émerveillés par les ors de
Donald Trump est un peu comme Ludo de Bavière, et donc il fallait le faire, le rapprochement.
Ah bah, c'est net, hein. Vous savez, c'était le côté kitsch de... Bah, vous savez, certains châteaux Lindenhof ont été inspirés par le château de Versailles.
D'ailleurs, vous en pensez quoi de l'Arc de Triomphe là, que Donald Trump veut faire bâtir, là, plus grand?
Oh bah écoute, c'est toujours plus grand, plus fort, plus vaillamment. Moi, je m'intéresse plutôt à la salle de bal, qui sera plus grande, et qui sera formidable, paraît-il.
Vous irez danser là-bas?
Oh, j'irai manger, j'irai boire du champagne et des petits fours. Voilà. Mais vous savez qui a ouvert le château de Versailles au public en France? Bah, c'est le roi Louis-Philippe.
Ah oui?
Et quand vous avez ce fameux tableau...
C'est devenu un musée, donc sous Louis-Philippe.
Oui, c'est Louis-Philippe qui a ouvert notamment la Galerie des Glaces et qui a, on le voit, le fameux tableau avec ses trois fils qui est triomphant devant le château à cheval. Et c'est le triomphe de Louis-Philippe à cette époque pour justement convertir les ors monarchiques ouverts à un public et faire des expositions, etc. etc. Enfin, donc, c'est assez intéressant.
Bien, d'un monarque bourgeois, l'autre. Merci, Gilles, d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à vous, chers auditeurs, parce que c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Voilà, merci quand même.
Il y a un moment,
effectivement, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va falloir nous arrêter là sur YouTube et sur X. Cependant, nous avons besoin de vous demander quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vos dons.
Allez, je remercie Franck d'avoir réalisé cette émission au passage.
Oh, non.
non, merci pas.
Vivement Arnaud.
Alors c'est ça. Bah, c'est demain Arnaud, demain. À partir de 7h, et je le salue, j'en profite. Et puis vous tous qui nous écoutez, eh bien il faut que vous ayez en tête que Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous. Ce sont vos dons qui nous permettent de financer la diffusion et tout le fonctionnement de cette radio. Soutenir.rc.fr pour avoir apporté votre pierre à l'édifice. Soutenir.rc.fr. Un grand merci d'avance.
Voilà, merci. Et puis tout de suite on retrouve Charles Demeyer qui nous explique. Est-ce que l'Union européenne va autoriser la remigration? C'est la question qu'on lui a posée.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, chers auditeurs, nous allons parler un petit peu d'immigration, plutôt un petit peu plus précisément, nous allons parler de comment on peut renvoyer justement aujourd'hui cette immigration et cette question. On va se la poser avec Charles Demeyer. Charles Demeyer, bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous?
Du Parlement européen où sera en effet voté le règlement retour vers midi.
Alors oui, ça on va en parler dans un instant, effectivement. Bon, alors nos auditeurs vous connaissent, je rappelle simplement un instant à ceux qui découvrent peut-être ce matin Ligne droite que vous êtes président de SOS Chrétiens d'Orient, secrétaire général de l'intergroupe pour les chrétiens d'Orient au Parlement européen et collaborateur parlementaire à ce Parlement européen dont vous connaissez toutes les arcanes. Alors, effectivement, je crois que c'est vers midi 30, aujourd'hui, le Parlement européen va voter, vous en parliez il y a un instant, le règlement retour. On a déjà entendu parler de la directive retour, on a déjà entendu parler de plein de choses à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que le règlement retour qui va être voté donc aujourd'hui?
Pour faire un peu de droit européen, le règlement retour, c'est simplement une actualisation de la directive, une actualisation qui a été retour, dont vous parliez, Alexandre, et une actualisation qui a été voulue plus ferme et plus symbolique d'un point de vue européen, puisqu'elle ne va pas, comme c'est le cas pour une directive, être un droit dérivé transcrit en droit national de l'Union européenne, mais un règlement qui s'exercera immédiatement après son vote, ou quasiment immédiatement après son vote, sur l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc l'intégralité des dispositions deviendront partie du droit européen et seront applicables, avant l'été, très certainement. C'est une victoire à la fois sur le fond et sur la forme, puisqu'il n'était pas acquis que cette directive devienne un règlement.
Oui, alors quels seront les effets très concrets justement de ce règlement retour? Comme son nom l'indique, si je ne me trompe pas, il va permettre notamment de faciliter les expulsions de l'Union européenne.
Alors, il va faciliter les expulsions, comme le nom l'indique, c'est un droit qui ne concerne que les demandeurs d'asile et notamment les déboutés du droit d'asile, qui était aujourd'hui très compliqué à expulser pour diverses raisons, d'abord pratiques et puis également d'enquête. Les personnes sujettes à ce règlement retour pourront être retenues 24 mois et même plus s'ils enfreignent le droit de l'Union européenne et ne seront pas libérables s'ils représentent un danger pour le droit de l'Union. On pourra les renvoyer dans ce qu'on appelle des hotspots, ce qui n'est pas très radio-courtoisie, mais ce qui permet en clair de les envoyer dans des États tiers dans l'attente de l'analyse de leur dossier de demande du droit d'asile. On pourra leur confisquer une partie de leurs effets personnels afin de déterminer avec certitude leur origine et donc ne plus être dans une forme de recherche impossible de là où ils viennent. Cela renforce évidemment les prérogatives de Frontex donc dans ses droits d'enquête. Et puis pour ceux qui commettraient ce délit qui est de venir dans le territoire de l'Union européenne sans chercher à y respecter le droit, donc en clair les clandestins, ils pourraient être à terme interdits de territoire de l'Union européenne. C'est donc une procédure qui permet d'interdire, d'essayer de démotiver le départ des pays d'origine de ceux qui font la gloire et l'argent, le profit des horribles passeurs de migrants dont la gauche ne parle jamais.
Ouais, alors si on comprend bien ce que ça change, on va dire presque philosophiquement par-delà le concret, c'est que jusqu'ici, le droit européen protégeait très largement le migrant, le demandeur d'asile, voire le clandestin. Aujourd'hui, si jamais ce texte passe bien, effectivement, ce ne sera plus le cas. Pour être assez concret encore là-dessus, mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le droit européen pourrait devenir plus contraignant sur l'immigration que le droit français?
On a un exemple assez simple, vous l'avez vu avec le vote de la loi dite Philippine, dont vous parliez tout à l'heure par la voix d'Alice. Les dispositions de ce règlement retour pour ce qui concerne les clandestins en situation irrégulière ou les demandeurs d'asile en cas d'étude sont des dispositions très largement supérieures, beaucoup plus intéressantes dans la lutte contre l'immigration illégale au point de vue européen que celles de la loi française. C'est-à-dire qu'on a un macroniste qui nous dit « bravo, le sujet est réglé », le lendemain, le Parlement européen vote un règlement bien plus ferme, ce qui indique quand même beaucoup de choses. Je rappelle pour nos auditeurs que dans le territoire de l'Union européenne, moins d'une OQTF sur cinq, donc moins d'une obligation de quitter le territoire national des États membres de l'Union européenne sur cinq est appliquée. Évidemment, le but, c'est de largement faire augmenter ce chiffre. En France, ça ne peut que progresser, puisque je crois qu'on fait partie des derniers de la classe de l'Union européenne. On est à bien moins de 20%. Le ministre de l'époque, Bruno Retailleau, avait d'ailleurs promis qu'il améliorerait largement les choses, et ses résultats, il faut bien le dire, avaient été assez médiocres, notamment du fait de ses dispositions.
Alors,
attention sur deux points, Alexandre. Le droit de l'Union européenne continue à être très favorable aux personnes migrantes, notamment via la CEDH. C'est pour ça qu'il y a énormément d'actions, notamment des États du Conseil menés par Giorgia Meloni, pour qu'il y ait une réforme des textes directeurs de la CEDH sur la protection des migrants, notamment pour qu'il y ait une volonté de protéger les peuples autochtones et les autres. Et puis, deuxième point, nous ne parlons là que de l'immigration illégale. Or, le gros de l'immigration dans l'Union européenne, c'est la question de l'immigration légale. Et ça, la majorité au centre du Parlement européen continue à ne pas vouloir se pencher sérieusement sur la question. J'en veux pour preuve qu'hier, dans un texte qui traitait sur le développement, la majorité centriste, hein, donc en gros une partie du PPE, soit le groupe dont est membre LR et les macronistes alliés à la gauche, vote un texte dans lequel il y a par 5 fois la volonté de créer des nouvelles voies d'immigration légales sûres vers l'Union européenne. Alors je m'empresse de dire par loyauté que les députés français, à une exception du PPE, n'ont pas voté ce texte, mais on voit bien que le passage à l'étape d'après, c'est-à-dire à la lutte contre l'immigration illégale, et on le voit bien pour la majorité des peuples européens, la volonté d'arriver à une forme d'inversion des flux migratoires n'est toujours pas à l'ordre du jour.
Oui, parce que rappelons quand même que d'une certaine façon, les peuples autochtones se moquent assez de savoir si les gens rentrent légalement ou illégalement. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que y en ait moins de ces rentrées, justement. Vous me faites un petit peu le pont avec deux questions que j'avais. La première, c'est que vous critiquez effectivement le bilan de Bruno Retailleau, effectivement, qui n'est pas positif sur l'immigration. En revanche, il y a une personne qui s'est un petit peu démarquée, il faut le dire, dans la mise en place de ce règlement en retour. C'est quand même François-Xavier Bellamy des Républicains. Est-ce que vous diriez que les LR du Parlement européen sont plus à droite et plus fiables que les LR au niveau national ?
Je ne critique pas le bilan de Bruno Retailleau. Je note qu'il avait fait, avant lui, Emmanuel Macron, hein, si on veut être honnête, de l'exécution de ses OQTF une promesse de gouvernement, et que force est de constater qu'il n'avait pas les textes et ou pas l'administration à disposition pour appliquer cette politique. Pourquoi ne le peut-il pas ? Parce qu'il n'y a pas la coalition des droites que le PPE fait au Parlement européen, au niveau du gouvernement et de l'État français. Aujourd'hui, sans François-Xavier Bellamy, il n'y aurait pas eu ce règlement retour voté dans ses formes au Parlement européen, il faut être loyal. Mais si François-Xavier Bellamy a pu le faire de cette manière, c'est notamment parce qu'il avait autour de lui des partenaires forts et des partenaires qui lui ont permis de mener ce combat. Je pense à deux groupes essentiels au Parlement européen. D'abord les conservateurs et réformistes européens, le groupe de Giorgia Meloni et Marion Maréchal, et puis les Patriotes pour l'Europe, dont le président est Jordan Bardella. Si bien que vous verrez dans une certaine presse la mise en avant quasiment exclusive du rôle des LR, qui est réel, hein, encore une fois, ça masquera une réalité politique qu'il faut que nos compatriotes comprennent, c'est que tout cela n'aurait pas été possible sans coalition des droites. Il y a eu une lutte à mort entre la gauche du Parlement européen et cette coalition des droites, tout le monde a bien tenu, tout le monde a joué son rôle, et c'est maintenant ça que nous devons reproduire dans notre pays. Si demain Bruno Retailleau veut redevenir un ministre de l'Intérieur qui arrive à atteindre ses objectifs pour les obligations de quitter le territoire national, il ne pourra pas le faire en restant au centre, il ne pourra pas le faire avec cette alliance DLR au centre, il lui faut une coalition des droites qui est évidente à la fois du fait de son parcours politique et de son exercice du pouvoir. Ouais. Un élément pour ça. Regardez avec attention, amis auditeurs de Radio Courtoisie, le résultat des votes sur le règlement retour au Parlement européen, notamment du bloc central. Vous verrez qu'il y a 3 positions différentes qui s'exprimera entre les plus fédéralistes progressistes qui refuseront de voter le texte, ceux qui s'abstiendront, en gros on nous annonce que les soutiens de Gabriel Attal iraient plutôt vers une abstention, et les soutiens d'Édouard Philippe irait plutôt vers un soutien de cette disposition. Si bien que Bruno Retailleau et le reste du centre-droit est face à une question. Pourquoi s'interdisent-ils à Paris de faire ce qu'ils font tous les jours à Bruxelles avec des succès qui vont croissant ?
Autre question, il nous reste que 3 minutes, donc on va essayer d'aller vite, Charles de Meillat.
Mais... Pardon, j'ai été.
Pas de problème, c'est moi qui vous ai posé la question après tout. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé il y a 5 jours, c'est la mise en place du pacte des migrations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce qu'on va sentir les changements, les effets de ce pacte contre lequel tous les groupes de droite se sont embattus ?
Oui, alors il y a une toute petite partie du pacte des migrations qui est positive sur des dispositions techniques de transfert de données. Pour le reste, évidemment, il est assez négatif. C'est une famille de textes, hein, ce n'est pas un texte unifié qui cherche à organiser la répartition des migrants au sein de l'Union européenne. En clair, le pacte des migrations vient répondre à une question que l'UE a du mal à résoudre. C'est la question des pays d'accueil et des pays de transit. Les pays comme l'Italie, mais je pense aussi à la Grèce, sont particulièrement marqués, particulièrement peinés par le manque de solidarité européenne face aux migrations, et donc ils veulent être déchargés du poids de l'accueil de ces primo-arrivants. On ne peut que les comprendre, hein, cet objectif politique, il est compréhensible. Le problème, c'est qu'ils ne pourront pas y arriver sans changement de philosophie. Et c'est ce que je vous disais sur une politique complète sur les migrations, qui ne s'arrête pas à la question de l'immigration illégale et clandestine et des déboutés du droit d'asile, mais qui va également traiter l'appel d'air de l'immigration légale.
Mmh. Et alors justement, à ce moment-là, ce sera ma dernière question pour vous, Charles de Meyer, mais c'est quoi la prochaine étape après ce règlement retour ?
Eh bien, la prochaine étape la plus importante, c'est de réussir à faire passer des textes sur l'immigration légale dans la Commission des libertés civiles. Aujourd'hui, rien n'est vraiment à l'ordre du jour qui permettrait d'accentuer cette pression. Je pense cependant que deux points politiques peuvent être mis en avant. On est en pleine négociation budgétaire, le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne est en cours de négociation. Beaucoup de mécanismes de conditionnalité devraient être ajoutés. En clair, on ne donne pas d'argent à des pays tiers s'ils ne reprennent pas illico presto leurs migrants déboutés des droits d'asile et s'ils ne font pas pression pour réduire l'immigration légale venant de leur pays, premier point. Et le deuxième point, c'est un changement de majorité plus général au sein de l'Union européenne. Et ça, c'est le sujet dont vous parlerez peut-être avec Roger Chudeau et le reste de vos invités, c'est la présidentielle 2027. Si demain, le camp national est au pouvoir en France et qu'au Conseil, on a Giorgia Meloni et Marine Le Pen ou Jordan Bardella capables de négocier fort en vue d'une réduction de l'immigration légale, nous sommes dans un autre monde, dans un autre Parlement européen, dans une autre Union européenne et dans une autre coalition des droites. J'espère que tout le monde le comprendra et que tous ceux qui ont agi pour que ce règlement retour puisse être adopté soient demain des acteurs en coalition pour sauver notre pays du désastre migratoire.
Merci beaucoup pour ces paroles d'espoir qui concluent notre entretien, Charles de Meyer. Et évidemment, on sait que nos auditeurs peuvent vous retrouver, je crois, plus tard aujourd'hui, si je ne m'abuse.
Absolument, ce soir à 23h, à 21h30, pardon.
Voilà, ce soir à 21h30, si jamais ils n'ont pas eu assez de Charles de Meyer ce matin, ils pourront en avoir plus ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir un petit peu expliqué cela. Et on vous dit à très bientôt ici, également sur cette matinale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, c'est la fin de Ligne Droite pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous, d'avoir suivi tous ces entretiens avec ces personnalités, d'avoir interagi sur le chat, sur YouTube et sur X. Simplement, évidemment, pour que toutes ces matinales se poursuivent, pour qu'il y en ait demain, pour qu'il y en ait à partir de septembre à la rentrée, eh bien, il va falloir que vous nous fassiez des dons.
Oui, il faut faire des dons sur Radio Courtoisie pour profiter de tous les outils que nous mettons en œuvre pour défendre vos idées. Comme le disait Alexandre, les plateformes telles que YouTube et compagnie, mais aussi la diffusion hertzienne, et c'est la force de Radio Courtoisie par rapport à nos amis qui sont aussi sur Internet. soutenir.rc.fr pour financer tout cela. Nous avons des idées plein la tête et même des projets de fréquences. Oui, les podcasts aussi sur podcast.rc.fr ou des fréquences supplémentaires que nous sommes en train d'essayer d'obtenir. Donc soutenir.rc.fr pour nous aider à concrétiser tout cela. Un grand merci d'avance.
Voilà, merci beaucoup. Et puis quel est le programme du jour, Franck ?
Dans quelques instants, sur Radio Courtoisie, un document d'archives, les chroniques de la vie parisienne de Jean-Paul Chériguès de Olmeta, qui recevait l'essayiste et auteur engagé Alban Daguin. Pardon. À midi, le libre journal des historiens de Philippe Conrad sur les massacres d'Oran en 1962. 14h, le libre journal des cultures et de l'exploration de Pascal Maurer, l'appel de la Terre Sainte à travers les siècles, marché vers Jérusalem avec Paul Amblard et Aliénor Vidal de la Blache. À 17h, le RC Mag de Jean-Étienne Posa pour Alouka la Patriote, Bretagne, bastion de la reconquête française. À 17h30, Restons Courtois, aujourd'hui avec Arthur de Vatrigan, l'historien Christophe Dickès pour son livre Le Christianisme, une religion d'historien, l'occasion de revenir sur l'héritage. Ouais, je vais pas hériter, moi, ça continue de Marc Bloch, et puis en seconde partie.
Marc Bloch, non mais oh,
Bloch, oui, ouais, non bah mais oui. Bon, écoutez, il est presque 10h, laissez-moi, il me reste 3 grammes d'énergie.
Ouais. Et 3 grammes de
de café. 19h30, le libre journal de la résistance française de Nicolas Stocker sur le procès Brigitte Macron, une farce, point d'interrogation. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer, vous savez tout.
Voilà, merci beaucoup. Et puis moi, de mon côté, je vous dis à demain 7h pour une nouvelle émission. Nous parlerons du 18 juin notamment. Merci beaucoup et à demain.
À demain, 7h.